Jean-Michel, je vous voyais réagir tout à l'heure sur la question de l'État, de la présence de l'État, du rôle de l'État.
Juste à travers un exemple, c'est vrai que les collectivités à des échelons plus locaux sont en ce moment une forme de régulation budgétaire, c'est ce que défend Jean-Pierre XVI. Tant mieux, mais moi il m'apparaît que ça peut faire penser à l'individualisme contre les collectifs. Juste un exemple, le label national qui s'invente au début des années 90, il s'invente sur une chose assez simple. Il s'agissait de regrouper tout un ensemble de labels qui étaient nés au cours des années précédentes, et notamment à la fin des années longues. Rappelle au passage que entre 81 et 83, le budget du ministère, c'est facile quand c'est tout petit, le budget du ministère en deux ans double, et qu'entre 83 et 90, alors qu'il y a deux années de cohabitation qui viennent se glisser là-dedans, il double à nouveau. Mais bon, donc à la fin des années 80, donc Bernard Fèvre d'Artier, le Bronleux, qui occupe le poste de directeur du théâtre, ça s'appelle comme ça, directeur du théâtre et du spectacle à l'époque, est chargé de regrouper ça, et sur une histoire toute simple, il ne s'agit pas de créer des lieux, il s'agit de missionner très clairement des gens sur l'accompagnement de la création contemporaine. Voilà, si je devais dire d'une phrase, sans développer plus que ça. Et ça, ça ne peut pas se régler en local. Ça peut se régler en local, quelle que soit la qualité du local. Je peux aussi développer par rapport au local un autre concept qui est qu'il est très compliqué de s'opposer parfois des politiques de clientélisme. Enfin, c'est très 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 complexe. Donc Jean-Pierre faisait référence à... dans le projet de la scène nationale à Carillon, on avait développé, pas inventé quelque chose, mais on avait développé une espèce de décentralisation du territoire. C'est la scène nationale de Vaucluse. C'est une histoire particulière, hein, c'est que il y avait eu un projet très lourd ici à Avignon qui avait été abandonné par une municipalité socialiste. Il va y avoir ce qu'on appelait encore un CAC dans les années 80. Si vous allez au cloître Saint-Louis tout à l'heure ou demain, entrez dans la cour. Sur la gauche, vous avez le bureau du festival, la billetterie, en bas, au-dessus des espaces d'exposition, au fond, l'ISTS. Ça, c'était le projet. Et à droite, vous avez un hôtel de luxe qui s'appelle le cloître Saint-Louis, je crois tout maintenant d'ailleurs. Donc ici, là, alors vous allez dans la cour à l'arrière, vous avez passé la réception de l'hôtel, vous allez à l'arrière, il y a un petit jardin où vous pouvez boire un verre, et vous verrez qu'il y a une partie bâtiment contemporaine qui est l'essentiel des chambres de cet hôtel. Et bien là, c'était une salle de 1000 places qui était prévue. C'était le centre d'action culturelle d'Avignon. Ah, oui. Et donc la ville d'Avignon, qui a toujours des soucis budgétaires et qui s'en sort avec son patrimoine important, vend. Donc a vendu la moitié de ce cloître pour faire l'hôtel que l'on connaît maintenant. C'était là qu'il va y avoir un centre d'action culturelle. Il y avait une équipe constituée, il y avait déjà 3-4 salariés, je crois. Enfin, le projet était très 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 avancé. Et donc Bernard Fèvre d'Arcier, connaissant mieux que personne, on est dans son entre-deux direction du Festival d'Avignon, connaissant mieux que personne l'histoire locale, arrive dans une région, dans une déshérence totale. Parce qu'on est aussi dans une région très particulière, si vous n'êtes pas d'ici, c'est que l'effet festival masque une grande misère. C'est la région la plus miséreuse du point de vue des outils culturels. Effectivement, il y a des gros festivals très visibles, Aix, Lyon, Cannes dans d'autres domaines, et il y a très peu de projets. Donc à l'époque, il n'y avait absolument aucun, sur toute la région PACA, il n'y avait absolument aucun lieu qui relevait du label Maison de la Culture, CAC ou CDC. Et donc, il y avait un centre culturel à Cavaillon, qui était né 5 ans avant, qui était dirigé par Yvon Badilla, qui avait commencé à montrer un travail assez intéressant. Il y avait un maire qui venait d'être élu, un maire de droite qui venait d'être élu, en disant « Nous allons être la ville culturelle du Vaucluse », c'était juste pour faire chier Avignon, parce que ces deux villes se détestent depuis toujours et pour toujours. Et Bernard Fèvre d'Arcier, force de cette histoire-là, vient voir ce maire, et il dit « C'est vrai que vous voulez devenir la ville culturelle ». Il lui expose le projet de scène nationale, grosso modo, c'était un franc contre un franc, et ça se règle dans l'après-midi, d'après ce qu'on m'a raconté. Il y avait Martigues, ville communiste, qui venait juste de voter la construction du théâtre des Salins. Et ça a été la deuxième scène nationale de la région PACA, avant que quelques années plus tard, il y ait Merlan et Gap. On est toujours là, enfin, par la liberté qui se greffait sur ce système à tout le monde depuis peu. Donc pour dire que les politiques locales, parfois, peuvent exister, mais qu'elles sont toujours dans ce grand aléatoire du localisme. Voilà. Donc effectivement, s'il y a des mains financières, tant mieux, mais néanmoins, l'idée d'une politique culturelle. L'État est quand même extrêmement nécessaire. Il n'y a aucun doute là-dessus.
Oui. Pardon. Oui, je peux rebondir là-dessus. On fait une observation ces derniers temps que je trouve très encourageante. Après, je ne veux pas dire qu'on va s'en sortir, mais voilà ce qui se passe. Vous avez relevé que depuis 2008, les départements ont beaucoup reculé en matière d'efforts pour la culture. Il se trouve que depuis 2 ou 3 ans, quelques départements se ressaisissent de la culture comme d'un enjeu politique qui redonne beaucoup de sens d'ailleurs à leur place, à leur projet. Comment font-ils ? En accompagnant ces nouveaux territoires que sont les nouvelles intercommunalités. savez, le territoire a été redessiné. Je ne parle pas des métropoles, là, je parle d'un certain nombre d'intercommunalités rurales ou urbaines qui parfois regroupent de multiples anciennes intercos et qui sont des territoires qui ont tout à inventer, y compris en matière culturelle, qui ont à inventer aussi leur existence, leur identité et à faire cité d'une certaine façon, à faire territoire vis-à-vis de leur population. Sauf que c'est hyper compliqué comme tâche. Et ces territoires, ou un certain nombre d'entre eux, se posent la question de savoir ce qu'il faut faire en matière culturelle, parce qu'ils comprennent, en tout cas pour un certain nombre d'élus, comprennent que la culture peut participer à la fois d'un certain réenchantement, d'un certain enchantement dans les territoires, et pouvait aider ces territoires aussi à exister tout simplement symboliquement vis-à-vis de leur population. Et parmi les priorités qui émergent aujourd'hui dans les préoccupations qui sont exprimées, il y en a deux qui viennent en premier. C'est l'éducation artistique et culturelle, c'est la présence artistique dans les territoires. Présence artistique à travers les résidences, à travers des formes de mobilité qui sont à imaginer. Et ça, c'est très intéressant comme perspective, parce que il faut savoir que dans les années 2000, les intercommunalités, quand elles réfléchissaient à leurs compétences culturelles, elles y réfléchissaient à travers on va prendre en charge la gestion d'un équipement. Mm-hmm. On va financer un équipement. Mm-hmm. Et ça suffit. On n'en fait pas plus. Là, ces intercommunalités ne peuvent plus de toute façon penser en termes d'équipement. Donc elles pensent plutôt en termes de transversalité. Mm-hmm. Elles pensent en termes de mise en réseau des acteurs. Et si cette perspective-là est encouragée, il y a peut-être une fenêtre intéressante pour les politiques.